Deuxième définition du transhumanisme. Donc là, je vous ai dit, première définition, c'est un ensemble de techniques qui augmentent. Deuxième définition, on pourrait dire que c'est une idéologie, à savoir un discours nébuleux, naïf, un peu flou, et peut-être volontairement flou, qui vous propose une certaine vision du monde. Et là-dessus, je voudrais m'appuyer sur un mathématicien et philosophe qui s'appelle Jean-Gabriel Ganassia, qui a écrit un très bon ouvrage sur cette question qui s'appelle « Le mythe de la singularité ». Qu'est-ce que c'est la singularité ? C'est le point à partir duquel l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine dans tous les domaines. Et pour certains transhumanistes comme Ray Kurzweil, qui est ingénieur en chef chez Google, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur cette question, qui est le fondateur de l'université de la singularité. Pour Ray Kurzweil, la singularité, ce point à partir duquel on va être complètement dépassé par l'intelligence artificielle, va advenir aux alentours des années 40-50. Et Jean-Gabriel Ganassia dit, mais en fait il n'en sait rien, premièrement. Deuxièmement, Ray Kurzweil et tous ces autres transhumanistes ont tendance à nous faire croire des choses qui sont totalement de l'ordre du fantasme. Et Jean-Gabriel Ganassia propose une critique du transhumanisme à travers, et de la singularité, à travers ce qu'il appelle la pensée gnostique. Il dit, en fait, les transhumanistes véhiculent un discours assez proche de la pensée gnostique. Il y a un sens caché de l'évolution, qui est le suivant. On est passé des matières et des particules à la vie organisée, de la vie organisée aux animaux plus ou moins intelligents, des animaux plus ou moins intelligents à l'humanité, de l'humanité au cyborg, c'est ce qui est en train d'advenir aujourd'hui, et dernière étape dans l'évolution selon Kurzweil, du cyborg au pur esprit, avec cette idée sous-jacente et cette volonté de la part de Kurzweil de transférer notre conscience, notre esprit à des serveurs. C'est son idée, voilà, l'évolution est très claire, elle est linéaire. Il y a une histoire qu'il faut raconter. C'est intéressant parce que là, on retrouve une autre pensée, pour le coup, propre aux religieux, qui est assez proche de la pensée de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, c'est un jésuite du début du XXe siècle, première moitié du XXe siècle, jésuite scientifique, paléontologue, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'évolution de l'homme et l'évolution de la nature. Et Teilhard de Chardin est le créateur du concept de noosphère. Noosphère, c'est cette idée selon laquelle, à terme, l'humanité sera pur esprit, il y aura comme une sorte d'enveloppe spirituelle qui entourera la Terre, nous serons tous connectés par notre esprit. Et il écrit ça dans les années 50, et vous voyez qu'aujourd'hui, les transhumanismes ont tendance à se rapprocher de la pensée de Teilhard de Chardin. Et d'ailleurs, un de leurs arguments, c'est de dire, en fait, nous ne sommes pas très différents des catholiques. En fait, nous, on pense un peu la même chose. Nous, on est plutôt du côté de Teilhard de Chardin et on va simplement essayer d'accélérer un peu le mouvement pour aboutir assez rapidement à cette noosphère. Exactement, effectivement, dans les grandes boîtes aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez raison, le langage est intéressant. On parle d'évangélisateur. Effectivement. L'évangélisateur, c'est cet individu missionné, mandaté par les grandes boîtes qui va faire la leçon sur l'agilité, le progrès technique, la disruption. Donc, premier pilier de la gnose, la nature est mal faite, il faut la réparer, et je vais vous dire quel est le sens de l'évolution. Deuxième pilier de la gnose, le mix entre mythe et raison. Quand on lit Kurzweil, il y a en permanence, il a écrit plein d'ouvrages sur le transhumanisme et sur l'évolution de l'homme, il y a en permanence des parallèles qui sont faits entre la réalité technique, ce qu'on est capable techniquement aujourd'hui de faire, et des fantasmes. Et c'est d'autant plus troublant, je crois, et d'autant plus difficile à démasquer que nous parlons de technologie, que nous parlons de scientifique. Débusquer quelqu'un qui un discours irrationnel chez quelqu'un qui est par formation extrêmement rigoureux, c'est quelque chose qui est difficile et c'est une des raisons pour lesquelles le discours transhumaniste, à mon sens, peut fasciner. Troisième pilier de la gnose, le temps brisé, la rupture, la disruption, pour reprendre les termes. cette idée que nous pouvons essayer d'épouser des changements radicaux, les provoquer, pour nous arracher de notre, entre guillemets, notre condition humaine, notre nature humaine. Il y aurait une troisième définition du transhumanisme qui me semble être la plus importante. J'ai dit première définition, ensemble de techniques propres à augmenter. Deuxième définition, idéologie au sens de discours nébuleux. Troisième définition, idéologie au sens de vision du monde qui va instiller la culture. Et là-dessus, on pourrait dire autant le discours transhumaniste en tant que discours nébuleux, il est transmis, il est véhiculé par un tout petit nombre d'individus. On les identifie assez facilement. Ray Kurzweil, c'est l'un des plus connus. On pourrait citer Max Mohr, qui est le fondateur de l'Institut des Extropiens. On pourrait citer Nick Bostrom, qui est professeur à l'Université d'Oxford, et qui régulièrement publie des choses sur le transhumanisme. On pourrait citer Damandis, qui est l'un des fondateurs de l'Université de la Singularité. Mais grosso modo, vous allez vite être limité dans le nombre d'exemples de transhumanistes purs qui se revendiquent tels quels. En revanche, je crois que le nombre de personnes qui, d'une certaine manière, défendent, adoptent, sans trop s'en rendre compte, la pensée transhumaniste, celui-là, il est colossal. Et peut-être que moi-même le premier, je suis, d'une certaine manière, un adepte du transhumanisme. Alors, quels sont les fondements de cette idéologie, les fondements intellectuels et culturels ? Ce qu'on entend la plupart du temps, c'est que le transhumanisme serait le dernier avatar de la modernité, avec cette idée principale qui est de faire de l'homme le maître possesseur de la nature. Pensée moderne qui est doublée d'une pensée de la perfectibilité, le début du solutionnisme, l'idée selon laquelle on peut résoudre la plupart des maux de l'humanité par les nouvelles technologies. On pourrait ajouter à cette liste le libertarisme, qui fait pendant au libéralisme, mais sur le plan social. Quand on voit des personnalités, pour le coup, qui se revendiquent transhumanistes, comme Peter Thiel, le fondateur de PayPal, promouvoir d'une manière ou d'une autre la fin des États et l'instauration de contrées totalement libres sur des îles artificielles, c'est ce qu'il a proposé et c'est un des projets qu'il mène en ce moment.
Le offshore, c'est ça, hein, c'est de pouvoir chercher sans contraintes réglementaires.
Ouais. L'homme sans entrave. Je suis libre de tout faire. Il n'y a pas de limite. Et je ne vois pas en quoi un État devrait me limiter sur telle ou telle chose. Je ne vois pas encore une société, je ne vois pas encore la présence d'un autre être humain pourrait me limiter dans mes actions. On pourrait ajouter dans ces inspirations les écologistes radicaux. D'une part, on prône la technologie, la technique, et de l'autre, quand on regarde les transhumanistes, ce sont des amoureux de la nature par ailleurs. Qu'est-ce qui explique ce contraste, cette tension ? En gros, vous avez d'un côté la nature qui est divinisée, de l'autre, la technique qui est divinisée, et au milieu, l'homme, qui est un type malade. Qu'est-ce que ça dit en substance ? Ça dit, nous n'aimons pas l'humanité. Alors, là, je vous ai fait un petit raccourci des grandes inspirations qu'on peut retrouver, qui sont, pour la plupart, déformées. Moi, je n'ai rien contre Descartes. Je crois qu'à un moment donné dans l'histoire, il était essentiel de proposer une pensée qui s'arrache, grosso modo, on pourrait dire, un spiritualisme un peu obscur, et d'une nature parfois jugée hostile. Je n'ai rien contre Pic de la Mirandole et l'idée d'un humanisme. Je n'ai rien contre Condorcet et l'idée d'un perfectionnement de la nature humaine. Ce que je veux dire, c'est que ce melting pot d'inspiration va permettre au transhumanisme d'instiller la société rapidement. Il me semble qu'il y a autre chose dans cette idéologie. Moi, je crois qu'on pourrait résumer l'idéologie transhumaniste comme une vision du monde qui prône trois choses. Premièrement, l'accélération. Accélération, vitesse, immédiateté, changement, rupture. Deuxième grand pôle dans la pensée transhumaniste, la performance, l'efficacité, la rentabilité. Et troisième grand pôle, la modélisation du réel.
Modélisation ou mobilisation du
réel ? Modélisation, le modèle. On peut modéliser le réel, on peut modéliser l'homme, on peut modéliser le corps humain. Et d'ailleurs, le monde se réduit à des simulations, des modèles qu'on peut reproduire, répliquer. Je crois que ce sont les trois grands pôles qui définissent plus justement le transhumanisme, au-delà de ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Et donc je voudrais passer brièvement sur ces trois grands pôles. L'accélération, il y a une parole de Kundera, qui est un auteur que j'aime beaucoup, un romancier, qui dit « La vitesse est la forme d'extase dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme. » La vitesse est une forme d'extase. Forme d'extase offerte par la technique. Je crois qu'il a totalement raison. Il écrit ça dans les années 90, à une époque où on ne parle pas du tout de transhumanisme. Mais il sent bien que nous arrivons à une époque qui prône l'accélération et qui risque, par cette accélération, de s'oublier elle-même. Et qui est une définition beaucoup plus élargie. Nous avons tendance à laisser une certaine part à ce qui échappe à la performance, à la rentabilité. Est-ce que nous avons tendance à regarder en face la fragilité ? Quelle est la place de la fragilité ? Je parle du handicap, mais il y aurait plein d'autres fragilités, plein d'autres formes de fragilité à définir. Est-ce qu'un artiste n'est pas, au vu de la pensée transhumaniste, un être fragile ? Parce que intuitif ? Parce que un peu ralenti ? Parce qu'il se laisse disponible, parce qu'il attend parfois, visiblement, passivement, alors qu'en fait ça bouillonne à l'intérieur, il attend que les idées viennent. Il attend que les idées surgissent. Et là, je peux en parler personnellement. Quand on crée, quand on écrit, quand on fait une activité créatrice, il y a des moments de ralentissement qui sont nécessaires. Et qui sont non seulement nécessaires à la créativité, mais qui sont vertueux, dans le sens où c'est par ces moments de ralentissement que vous allez pouvoir faire la clarté sur vos idées, mais être témoin de phénomènes d'émergence. Je pense que les phénomènes d'émergence, c'est-à-dire des nouvelles idées qui apparaissent, pour des raisons que vous ignorez, mais qui peuvent être encouragées par le travail et la rigueur, ces phénomènes-là vous échappent et vous permettent pourtant d'atteindre un autre stade de créativité. La troisième grande idée, c'est la modélisation. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle ? Un modèle, c'est quelque chose qui se mesure, qui se maîtrise, qui se démontre. Et c'est pour ça que je dis que la pensée transhumaniste, au-delà de toutes les nouvelles technologies, de ce qui est techniquement faisable ou non de faire aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir, est-ce que nous considérons que le réel est totalement mesurable, maîtrisable, démontrable. Et c'est là où je voulais en venir. Il me semble que la pensée complexe nous rappelle au contraire que le réel ne se réduit pas à ça. Que le réel ne se réduit pas à une série d'indicateurs. Que le réel ne se réduit pas, même si c'est important, loin de moi l'idée de vouloir occulter toutes ces questions, le réel ne se réduit pas à des démonstrations. Donc il y a un pôle très important qui nous dit ça, c'est la pensée complexe, il y a un autre pôle qui nous le dit, c'est l'art. Et l'art des deux côtés de l'acte même de la créativité, c'est-à-dire le créateur fait l'expérience de ce qui n'est pas mesurable, pas modélisable, pas démontrable. Quand on écrit, c'est un cliché de le dire, mais c'est vrai, on est de temps en temps un peu dépassé par ses propres personnages, c'est la réalité. Il y a des choses qu'on ne voit pas nous-mêmes, mais que le lecteur va vous dire. Et pourtant, vous l'avez écrit, hein, c'est là. Il y a des choses qui vous échappent. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'essayer, je pense que c'est la mission première aujourd'hui de l'art, de représenter le réel. Et représenter le réel, de manière honnête, ce n'est pas essayer de le modéliser. C'est comprendre qu'il y a des choses qui nous échappent.
Un animal tel que le mouton,
Vous avez vu que nous n'étions qu'à la première partie. La deuxième partie, c'était quand on reprend justement les définitions que j'ai proposées, les trois définitions, quels sont les enjeux derrière ? Première définition, augmentation par les techniques. Quels sont les enjeux derrière ? Il me semble que c'est le bouleversement, pour le coup, de paradigme qui va toucher l'économie, la politique, la société, la culture. Et donc j'avais plusieurs points là-dessus pour faire très vite. Il me semble qu'en économie, alors on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit, un point de plus par rapport à l'économie, nous sommes face à une situation où quelques individus ont un très grand pouvoir et on peut se poser la question de savoir si un marché libéral qui promeut la libre concurrence ne va pas terminer par la formation de monopoles. Et qui dit monopole à la fin, dit également possibilité de créer une pensée unique. C'est lié au sujet de la politique, évidemment, dans le sens où on voit bien aujourd'hui que cette pensée, cette potentielle pensée unique, elle peut se substituer au pouvoir politique. Pour plusieurs raisons. La première, c'est ce dont on a parlé en termes d'économie. Ce sont des entreprises qui sont parfois plus puissantes que les États sur le plan économique. Deuxième raison, c'est que ces questions techniques sont éminemment complexes et que le politique n'a pas le temps de tout comprendre. Donc, il a du mal à réguler. Et on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs d'avoir du mal à réguler ça, ou en tout cas de prendre du temps pour ça. Parce que comme c'est complexe, ça demande du temps. Autre problème du politique, c'est que la question de la régulation, elle est quasiment impossible. En tout cas, elle est très difficilement mise en place, la régulation, dans un système qui est par ailleurs ouvert, sans frontières. Je vous donne un seul exemple. J'ai un ami qui, aujourd'hui en France, vous ne pouvez pas avoir un séquençage ADN, c'est interdit. C'est interdit en France, mais rien ne vous empêche d'envoyer votre échantillon à un autre pays. Rien ne vous empêche. Aujourd'hui en France, vous ne pouvez pas dire dans une clinique de bébé parfait, je veux tel QI pour pouvoir avoir telle chance d'avoir un enfant intelligent. Impossible en France. En revanche, vous pouvez très bien aux États-Unis le faire. Et vous voyez là que se trame quelque chose d'essentiel à cette pensée dite transhumaniste, qui est un effet de mimétisme. À partir du moment où quelqu'un va prendre du progrès technique pour s'augmenter, ça sera très difficile pour ses voisins de faire différemment de lui. Donc effet mimétique dans un monde ouvert, libéral, qui pose du coup la question d'une frontière, non pas pour se replier sur soi-même, mais pour savoir, justement, encore une fois, quelles sont les limites, pas seulement éthiques, mais limites géographiques, limites culturelles, quelle société nous voulons bâtir. Et puis, troisième volet de cette grande révolution, c'est la révolution sociale. Qui sera capable d'avoir tous ces produits, soi-disant, augmentatifs, et comment vont devenir, que vont devenir les autres ? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un cas de figure similaire à celui-ci ? Est-ce que ce n'est pas déjà ça qu'on voit aujourd'hui dans les manifestations ? Il y a un roman que j'adore et que vraiment je vous recommande qui s'appelle Les raisins de la colère, de Steinbeck, qui parle de cette question-là, pas aujourd'hui, mais dans les années 30, face à l'industrialisation. Et c'est vachement intéressant de voir que la grande question que pose Steinbeck dans ce livre-là, c'est la fracture sociale qui est en train de se créer par la technique, alors que la technique aurait pu apporter un bonheur incroyable. Vous savez, on est dans ce monde où les tracteurs arrivent et font fuir les paysans, font fuir les agriculteurs, qui du coup migrent de l'autre côté de la côte. Et les paysans ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi un tracteur qui n'a pas de vie est en train de les arracher de leur propre terre. Eux qui ont de la vie. Et il se crée pendant tout le roman une fracture sociale épouvantable, effrayante, mais magnifiquement écrite, entre d'un côté ceux qui prônent ces nouvelles technologies, sans regarder les effets de leur action sur la population, sans considérer les effets de leur action sur les agriculteurs, et de l'autre ces agriculteurs qui deviennent des vagabonds, qui sont totalement délaissés et qui ne comprennent pas l'évolution du monde. Je voudrais terminer peut-être juste par un tout petit extrait de Kundera, si vous me permettez, qui est très beau, et qui nous parle justement de de cette nostalgie du ralentissement de la lenteur, qui à mon avis est peut-être le cœur du problème. Pourquoi le plaisir de la lenteur a-t-il disparu? Où sont-ils les flâneurs d'antan? Où sont-ils ces héros fainéants des chansons populaires? Ces vagabonds qui traînent d'un moulin à l'autre et dorment à la belle étoile? Ont-ils disparu avec les chemins champêtres, avec les prairies et les clairières, avec la nature? Un proverbe tchèque définit leur douce oisiveté par une métaphore. Ils contemplent les fenêtres du bon Dieu. Celui qui contemple les fenêtres du bon Dieu ne s'ennuie pas, il est heureux. Dans notre monde, l'oisiveté s'est transformée en désœuvrement, ce qui est tout autre chose. Le désœuvré est frustré, s'ennuie, est à la recherche constante du mouvement qui lui manque. Je crois que vous avez quelque chose d'essentiel qu'on trouve d'une manière générale dans le roman, qui est le combat contre l'oubli de soi, l'oubli de l'être, l'oubli de la vie, et l'éloge de cette incertitude, de cette sagesse de l'incertitude, qui est très proche du ralentissement que prône Milan Kundera, qui est pour le coup un modèle dans l'art du roman. Voilà pour conclure très brièvement.
Juste un contrepoint de Kundera, il y a une citation à laquelle me renvoie Kundera, qui est d'un philosophe que certains étudiants, là pour le coup, connaissent bien maintenant, Léo Strauss, et qui parle à propos de la recherche moderne du bonheur, d'une poursuite de la joie sans joie. Et quand je trouve que quand on entend l'artiste François-Révis de Guénivau dire que la réponse aux questions que pose le transhumanisme est peut-être dans la créativité artistique, je crois que c'est une réponse à Léo Strauss. Merci en tout cas, merci.